Liberté 89.4.
Bon, et bien, bonjour à toutes et à tous. C'est le Ferry Club sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. Et cette semaine, c'est Chris et Sylvie qui vous ont préparé cette émission.
Mercredi, 16h.
Salut.
Radio Libertaire, le Ferry Club.
La Radio Libertaire.
Humains qui après nous vivaient n'ayez les cœurs contre nous endurcis. Car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Voyez si attaché,
5-6.
Quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les eaux, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rimait, priez Dieu que tous nous veillent absoudre.
Les mots sont les mots.
Si, frères, vous clamons, pas n'en devez avoir dédain, quoique fûmes oxy, par justice.
Toujours mal crié.
Toutefois, vous savez que tous hommes n'ont pas bon sens rassis. Excusez-nous, puisque sommes transis.
Pourtant, il faut bien.
Envers le Fils de la Vierge Marie, que sa grâce ne soit pour nous tarie, nous préservant de l'infernale foudre.
Servir des mots.
Nous sommes morts, amenez-nous à rire, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
On nous a laissé.
La pluie nous a débué et lavé, et le soleil desséché et noirci.
Écrit sur la vie.
Pis, corbeaux, nous ont les yeux cavés et arraché la barbe et les sourcils. Jamais nul temps nous ne sommes assis.
Crier dans les cris.
Puis ça, puis là, comme le vent varie, à son plaisir sans cesser nous charrie, plus becqueté d'oiseaux que des accoudres.
Des amants lassés.
Ne soyez donc de notre confrérie, mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre. Frères humains qui après nous vivez, n'ayez les cœurs contre nous endurcis, car si pitié de nous pauvres avez, Dieu en aura plutôt de vous. Merci. Vous nous voyez si attachés, 5-6, quand de la chair que trop avons nourri, elle est piéça, dévorée et pourrie, et nous les eaux, devenons cendre et poudre, de notre mal personne ne s'en rit. Mais priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
L'amour.
Prince Jésus,
n'a pas d'âme.
Qui sur tous a maîtrisé.
Et la mer.
Garde qu'enfer naît de nous, Seigneurie.
Là-bas,
à lui,
sur la plage,
n'ayons que faire, ni que soudre. Homme,
n'a pas d'âme.
Ici, n'a point de moquerie, mais priez Dieu que tous nous veillent absoudre. priez Dieu que tous nous veuillent absoudre.
Comme peu parmi les musiciens, au centuple de tous ces talents multipliés, il y a à la fois l'inventeur de ces mélodies, l'arrangeur, l'orchestrateur, le chef d'orchestre, l'interprète au piano. Donc si ça, c'est pas un grand musicien, je sais pas où on en voit beaucoup d'autres.
La musique, où elle était la musique? Dans les salons lustrés, aux lustres vénérés, dans les concerts secrets, entre le cré crinoline, dans les temps reculés, aux reculs empaffés, dans les palais contes, aux conquêtes galines, c'est là qu'elle se pâme, c'est là qu'elle se terre la musique. Nous, c'est dans la rue qu'on a vu la musique. Elle rabla, la musica. Elle y viendra, et nous l'aurons. Musse signe. Es, musse, cela doit-il être, cela est. Nous vivons là bientôt 30 ans, nous vivons bientôt 10 jours. Nous vivons bientôt ta gorge. Depuis voilà bientôt ta source, depuis que je traîne ma course, au creux des nuits pour me forçat à patibuler mon écorce. Où se saigne, est-ce où saigne, cela doit-il être, cela est. Je suis un arbre non daté, depuis que je vois ma porte et que de l'enfer tu m'apportes. De quoi trancher sur l'avenir depuis que rien ne se dévore, à part les ombres sur le mur depuis que tu me sers encore. La défaite sur canapé, mousse saigne, est-ce mousse saigne, cela doit-il être, cela est.
Blessure, je crois, biographique, c'est d'avoir essuyé de la part de l'establishment musical, sérieux, savant de l'époque, des refus, de ne pas avoir été reçu comme compositeur. Évidemment, c'est bisquant d'imaginer qu'un homme comme Ferré, qui est poète parmi les plus grands, qui est à la fois à l'intersection de Villon, de Mallarmé et d'un chansonnier comme Bruant, puisse à la fois être à l'intersection de la Java et de Mozart. Donc c'est trop, évidemment, c'est beaucoup trop pour un seul homme. Très bien d'avoir la technicité qui fait qu'on réalise une partition, mais ce n'est rien si on n'a pas l'espèce de geyser intérieur, espèce de force folle qu'il faut animer pour qu'une musique existe vraiment. Et lui, il était animé par ça. Donc, propagateur d'âme, d'animation, de folie intérieure, tout ce qu'il faut pour que la musique existe. Et quand on écoute formellement, maintenant, avec la distance, ces interprétations de Beethoven, de Ravel, par rapport aux critères de l'époque, par rapport aussi au niveau des orchestres qui ont servi sa musique, il n'y a vraiment pas à pâlir. Je trouve que ça tient la route. Ce sont vraiment des interprétations qui sont animées, qui ont une visée, qui ont une cohérence, qui s'articulent très bien. Et elles sont lyriques, elles sont fortes, elles sont à la mesure de sa voix. Thank you.
donner la vie à l'aide des musiciens vivants, parce que c'est eux qui donnent la vie à la musique, c'est incommunicable. C'est un cadeau fantastique que m'a fait ce qu'on peut appeler d'une façon simpliste le destin, sur lequel il y aurait beaucoup à dire.
Où il est vraiment culotté, c'est quand il a la force, moi je le vois comme ça en tout cas, de quitter les rives de la chanson, du modèle de texte de chanson, du modèle de musique de chanson, pour aller se jeter dans l'exploration d'une terre inconnue à l'époque, et encore très très peu pratiquée pour le moment, qui est de faire des espèces de symphonies avec paroles. Il n'y a pas de terme pour ça. Et c'est l'assomption de quelque chose. Et ça ne ment pas, parce que je crois que quiconque à l'écoute de Ferré fait un court-circuit entre le cœur, l'oreille et la raison, est en face d'une œuvre majuscule, majeure, de cette fin de siècle, et pas seulement en langue française, je crois. Et cet homme-là, il est voyant, il n'y a pas de terme pour ça, il est voyant par l'oreille. Voilà, et ça c'est le musicien, et donc c'est le poète aussi. Voyant par l'oreille, c'est-à-dire que tout lui apparaît en son aussi. C'est ça qui est magnifique.
Au fond d'une guitare enragée à l'automne, il y avait du sang comme un dièse mouillé. C'était à Bonne, au détour d'une rue. S'il fallait parler de cette romance en allée dans la rue, avec ses habits du dimanche, alors que la semaine s'étire un peu mieux, au bout de l'incertain et du tragique, s'il fallait chanter cet éternel recommencement qui tient de l'habitude et du savoir constant et vérifié par les arbres, par les crépuscules teints, par les regards cachés derrière la pensée perverse ou religieuse, s'il fallait dire un peu de cette insouciance et qui nous mène au jardin des faillites et de la solitude, s'il fallait, alors remonterait du fond de nos cagibis inconscients, du fond de notre vouloir le plus profond, l'incertitude, le temps précis et incalculé et toujours indemne. Alors s'emballerait notre habitude retenue par la défense de s'insurger, de s'éprendre, de s'illusionner. Coriolan n'était qu'un prétexte. Edmond, parlons-en. Tu te souviens, sur cette plage tout en gravier, cette plage défaite au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant seul et triste. Tu t'en souviens, dis. Tu t'en souviens. Et tu chantais. Et tu chantais. Et tu pensais qu'Egmont, c'était la mer, le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Tu l'avais dit. Et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde, évaincu et grinçant contre l'imbécilité secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme la mer après ses descentes impitoyables au fond des enfers et de la nature fidèle. Edmond, comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques, parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique, et ce temps qui s'est arrêté au bout de la seule invention de l'homme. Devine, je m'illusionne et je pars m'illustrant moi-même
et me regardant à travers le style enfin parcouru au long de tous ces silences, de toutes ces vicissitudes interpolées par des copistes dont je me fais le modèle transmis dans cet oué, sans doute par voie orale. Quand je parle à l'illusion, je suis à bonne, sous-traitant la 14e symphonie chez un archiduc de mes prétendants. Je vais alors et maintenant vers l'horizon blafard et souriant peut-être, parce que de mon œil jusqu'à son désir de paraître, il n'y a probablement qu'une intention d'architecte. Ce que je vois se perd. Ce que j'instrumente ne peut qu'être perdu aussi. L'instinct du hautbois est une crécelle inventée par des lèvres secourues. Le vent, d'habitude, s'informe de ses perverses possibilités et se retrouvera bientôt dans le plan général de ces bois vertueux et grinçants, rien qu'à l'idée de se protéger tout en haut, à l'aigu, se défendant aussi de la fable contrapontique et apprise sur les bancs de l'informe et de la décadence. Le chant, le chant, le chant, et cette vertueuse passion qui ne va jamais au bout de la relative inversion, dans le moins que l'on ne découvre qu'à force de bienfaits dans l'outrage et dans le sacrifice propitiatoire, un peu comme la terreur obligée du stupre et de la revendication. Je sais des formules apprises, je leur crachais dessus. Je sais des impossibilités pratiques, je les décontenançais à force d'incroyable. L'incroyable, c'est la porte de secours que je poussais quelquefois. Et personne jamais ne s'en est aperçu. La perversion m'obligeait à me rendre tel que les pervers pouvaient m'imaginer. Et encore, cette perversion tellement cachée au fond des mers conscientes, revue et corrigée par le cynisme des lois de préférence pénale, je l'entendais au fond de moi comme les accords de la 9e que j'avalais de travers parce qu'englouti pêle-mêle dans ma bouche auriculaire. Et je le rendais à qui de droit, je veux dire aux inadaptés de l'esprit. Ils croyaient que je me trompais alors que Stravinsky c'était déjà moi, avec le sourire en plus. Enfin, ce sourire tout près de vos larmes, il faut concéder, ça favorise et ça trompe les historiens. J'allais jouer à la Marelle avec 32 cases. La sonate pour piano, c'est une démission de joueur. Quand Dieu se masturbe, il met du cassis dans ton vin blanc et tu jouis en même temps que lui, à cela près que Dieu, c'est toi aussi. Vous n'êtes rien moins que les informes copies de votre propre imagination. Lorsque tu imagines, tu crois être dans le spectacle, alors que le spectacle te regarde et te vérifie. Quand je transpirais auprès de Thérèse, elle prenait ça pour du génie. Mon génie, c'était justement de m'arrêter à temps, au bord du non-dit, et de l'informuler. Tu sais bien que Rembrandt n'a jamais dessiné que des fadaises. Si tu voyais ce qu'il voyait, tu t'arracherais mes oreilles. Nous sommes d'un monde non édifié et que nous sommes seuls à parcourir. Encore qu'il faille un peu de désordre aussi et de cette indicible beauté qu'on ne dit même pas en musique ou au fusain et que nous immolons chaque soir avant de parcourir l'inédit. Et la fantastique pâleur du silence et de l'objective inanité, le néant vraiment finit par avoir une consistance, tellement nous nous en informons, tellement nous le parlons avec nos mots et nos idées, alors que l'idée même en est transfigurée par nos sens et notre dérisoire entendement. Coriolan n'était qu'un prétexte. Egmont, parlons-en. Tu te souviens dit, sur cette plage, tout en gravier, cette plage défaite, au nom d'une certaine compromission entre la mer et le spectacle, cette plage que tu voulais défaite et soumise à ton imaginaire chorégraphie d'enfant sale et triste. Tu t'en souviens, dis, et tu chantais, et tu chantais, et tu chantais, et tu pensais qu'Egmont c'était la mer, le drame, les larmes, la beauté de cet instant fabuleux de solitude exaucée. Et tu l'avais dit, et tu l'avais crié à ce prof impotent du verbe et de la grâce. Et tu t'étais caché parce que tu étais seul au monde, évaincu et grinçant contre l'imbécilité, secourue et protégée par la loi et par le nombre. Depuis, Egmont me remonte comme une source bienheureuse et coulant, comme une génération tout entière de bienfaits uniques. Parce que tu es l'unique, parce que je t'ai donné l'unique. Et ce temps, il s'est arrêté au bord de la seule invention.
Des mots pour eux-mêmes qui font un rythme. Ça, c'est vrai que Ferré a eu la préscience de ça très très tôt. Donc il y a à la fois une espèce d'invective rythmique beaucoup dans sa parole, mais il y a aussi ce mélite, c'est-à-dire une espèce de petite mélodie presque pas perceptible, mais qui fait chanter quand même mélodiquement les mots quand il parle, et qui renvoie aussi là à une tradition très ancienne. C'est que tous les textes sacrés dans les mondes anciens religieux étaient comme ça psalmodiés, avait une espèce de... On quitte la parole pour entrer dans quelque chose qui porte la parole avec une profondeur sacrée. Et il y a tout ça en même temps. Il y a une espèce de harangue, il y a la violence et le sacré.
Je ne suis qu'un amas de chair, un galaxique qui détale dans les hôtels du mont en l'air, quand ma psycho se fait la malle. Ta robe prise sur le vif dans la collection des comètes traînera dans mon objectif quand les termites seront jettes. Je vais tout à l'heure fauchant des moutons d'iceberg solaire avec le quartz entre leurs dents, abrouter des idées lumière. Et des chevaux les appelant de leurs pampas et des coursives que j'invente à leur naseau blanc comme le sperme de la marin d'outre-temps, arrive marine d'extase. Quand je m'arrête, tu me prends comme je te prends dans ta case. Négresse bleue, blouse d'horizon, et les poissons que tu dégorges depuis ton ventre et tes façons quand ton sexo joue dans ta gorge. Dans cette plaie comme d'un trou, grouillant de cris comme la vague, quand les goélands sont jaloux de l'architecte où s'extravague. des maçons aux dents de velours et le ciment dans leur salive à te cimenter pour l'amour, ton cul calculant la dérive. Des mots qui t'envahiraient comme mon absence, des mots qui montent du silence comme des violons tristes sous une main fidèle. Mes souvenirs s'en vont par deux, moi le terrien du Pacifique, je suis métisse de mes aveux, je suis le silence en musique. Le parfum des mondes perdus, le sourire de la comète, sous l'empire de ta vertu, quand mes soldats te font la fête. Muselle-moi, si tu le peux, toi, dans ton X ou le vacarme, sonne le glas dans le milieu, moi, planté là, avec mon arme. Tu es de tous les continents, tu m'arrives comme la route où s'exténuent 10 000 amants, quand la pluie a ton cul ses gouttes. Qu'ai-je donc à lyriser cette miction qui me lamente? Dans ton lit, j'allais te braquer, ta culotte sentait la menthe. Et je remontais jusqu'au bord de ton goémon en soupente, et mes yeux te prenaient alors ce blanc d'écume de l'attente. Des mots qui t'envahiraient comme la détresse, des mots qui montent de l'ivresse comme les choses tristes sous le destin.
fidèle des mots. MC2, MC2, aime-moi donc ta parallèle avec la mienne si tu veux, s'entrianglera sous mes ailes. Humant un peu par le dessous, je deviendrai ton olfac mouette, mon bec plongeant dans ton égout, quand Dieu se vide de ta tête. Les vagues, jamais ne viendront repeupler le sable où je me traîne désormais, attendant la marée du diable. Ce copain qui nous tient la main devant la mer crépusculaire, depuis que mon cœur dans le tien mêle ton astre à ma lumière. T'envahirait comme la lumière des mots qui montent de la terre. Comme des oiseaux tristes sous un avion fidèle, je t'aime.
Je suis toujours très 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 heureux de pouvoir parler. Voilà,
on va le mettre là d'ailleurs pour que tout le monde le voit, parce que cet homme-là, je crois qu'il a changé la vie de beaucoup de gens.
Et en tout cas, s'il n'a pas changé la vie de beaucoup de gens, il a permis à des gens de faire un chemin avec lui. Et c'est le propre des grands artistes, des grands poètes, des grands prophètes. Moi, j'emploie ce mot-là assez souvent maintenant pour parler de Léo Ferré. C'est pas un mot que je veux ravaler à autre chose que ce qu'il est. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est un prophète depuis qu'on emploie ce mot, c'est-à-dire depuis plus de 2500 ans? C'est un humain, parmi les humains, qui est ulcéré par l'état du monde et qui parvient, non pas seulement à dire son ulcération, mais à la transformer en des mots, en des paroles, qui deviennent des textes, qui sont préservés des dommages du temps par le fait qu'ils sont écrits. Et à travers ces textes, eh bien, on a la capacité, nous, de nous mobiliser, de trouver une force, de trouver un élan vital pour garder, à titre personnel, la tête au-dessus de la ligne de flottaison, et si possible, de trouver un niveau de fraternité. Voilà. De trouver un niveau de l'existence humaine où on n'est pas seul à souffrir, on n'est pas seul, pour prendre les mots de Léo, dans la solitude, l'ennui, la violence, hein, qui sont des mots-clés de l'ulcération chez Léo Ferré, et le désespoir. Voilà. Parce que le désespoir, l'ennui, la violence et la souffrance chez Ferré ne sont jamais seulement un constat. Hein. Le constat est là, on peut le faire tous les jours, mais si on n'en fait que le constat tel qu'on le reçoit par les puissances médiatiques actuelles, hein, télévision en premier, on est pantelant. On est, au contraire, on est effectivement souffrant, violenté, désespéré par l'état du monde. Et des gens comme Léo Ferré, les prophètes, ce sont des gens qui parviennent à donner à ce constat une allure de beauté, une allure de force, une allure de sagesse qui fait que nous sommes mobilisés au sens guerrier, mais pour le coup pacifique du terme, c'est-à-dire qu'on peut aller de l'avant. Hein, et ça, c'est pour ça que j'ai une gratitude énorme envers Léo Ferré et le sillage des prophètes avec lui, c'est-à-dire que c'est une œuvre qui est dans l'inéluctable, qui est dans un chemin de vie de transformation du monde. Et ça, voilà, notre Léo nous a apporté à travers son art cette capacité-là. Alors, de quoi a-t-il fait son art ? Il a beaucoup évolué au cours de sa vie. Et l'opéra du pauvre, puisqu'il faut parler de l'opéra du pauvre, c'est pour moi, je ne suis pas le seul à le penser, je crois que tous les spécialistes de Ferré le tiennent pour une évidence, c'est que l'opéra du pauvre, c'est la somme de sa vie. C'est-à-dire, c'est le creuset dans lequel tout Ferré a trouvé à se dire. Tout Ferré, c'est-à-dire le chansonnier, parce que c'est aussi un chansonnier. Et quel chansonnier, on le sait, que l'on met à l'égal des plus grands de la deuxième moitié du XXe siècle, et on n'a pas tort. Donc quelqu'un qui sait faire des chansons qui font mouche en 3 minutes. Et ça, il a commencé ce chemin-là au début des années 50, avec des chansons qui très vite ont été repérées, qui ont fait de lui une des coqueluches de la scène parisienne, qui est entrée évidemment dans le monde du disque, parce que le disque s'est développé à ce moment-là, et donc il est entré dans l'industrie naissante du disque. Une industrie qui à l'époque était encore, je dirais, à taille humaine, où les producteurs avaient encore une espèce de lien avec l'artiste, alors que de plus en plus c'est devenu une industrie au sens tout à fait inhumain du terme, c'est-à-dire une machine de production, de rentabilité, etc., l'industrie culturelle, ce qu'elle est maintenant. Et le chemin de Léo Ferré est lié à ça, c'est-à-dire qu'il s'est rendu compte de ça progressivement, il s'est rendu compte que la liberté de poète était de plus en plus contrainte par l'industrie du disque et par le monde de la rentabilisation extrême du concert. Et il a largué les amarres progressivement pour finalement, au cours des années 70, quitter le monde de l'industrie, de la culture musicale et du disque en particulier, pour ne plus être que son propre producteur, ne plus avoir de compte à rendre à des directeurs de labels qui le censuraient ou qui l'orientaient dans des zones où il ne voulait pas aller, et être donc libre de ses mots et de sa musique. Donc c'est un chemin, à titre d'exemple, c'est vraiment magnifique de voir qu'un artiste est parvenu, comme Ludwig van Beethoven, avant lui, qui est son modèle absolu dans sa vie, il a chanté suffisamment, pour ceux qui connaissent bien l'œuvre de Beethoven, de Léo Ferré, oui, eh bien, il est parvenu aussi, Beethoven, au cours de sa vie, à se soustraire à la domination qui était jusqu'à Mozart, c'est-à-dire jusque peu avant lui, la loi, c'est-à-dire soit le prince ou l'évêque, auprès duquel un compositeur ne pouvait que se soumettre à la volonté de ses tuteurs, en quelque sorte. Ferré, c'est un peu ça, il est parvenu, grâce à la qualité de son art et grâce à sa puissance de combat personnel, à se soustraire à cet ordre des choses, auquel peu ont échappé dans le monde de la chanson. Et alors, se soustrayant à ça, eh bien, il a donné libre cours à ce qu'il est vraiment, c'est-à-dire, pour moi, le plus grand poète en langue française de la deuxième moitié du XXe siècle. Vraiment, je pèse mes mots, parce que je suis très amoureux de la poésie française, et je crois la connaître suffisamment pour asséner cette assertion, là, que pour moi, c'est le plus grand poète en langue française de la deuxième moitié du XXe siècle, après Aragon, disons. Parce que, et d'ailleurs, il se situe dans le sillage de tous ceux-là. Donc Aragon, le plus proche de lui par la génération, mais avant lui, évidemment, Apollinaire, Rimbaud, Baudelaire, et puis loin, Villon. Donc tout un chemin de la haute poésie française, mais toutes ces poésies-là qu'on évoque, elles, c'est quand même de la poésie intelligible. C'est-à-dire que ce n'est pas ce qu'a représenté Mallarmé ou les descendants de Mallarmé après au XXe siècle, une poésie dont on se sent, à moins d'être vraiment dans les arcanes d'une connaissance très fine du poète et de son œuvre, dont on se sent assez vite exclu à la lecture. On se dit, voilà, je comprends ces mots-là parce que je parle français, mais je ne sais pas du tout où il veut m'emmener. Tandis que Léo Ferré, quand on lit ça, à certains moments, on peut se sentir largué, mais on se sent suffisamment pris par la main pour continuer à être pris par ce flux d'intensité poétique. Et c'est ça un peu le miracle de la poésie de Ferré, c'est que c'est à la fois une poésie de haute alchimie, de haut travail, de modification du langage commun pour en faire une langue qui n'appartient qu'à lui et qui n'appartient pas seulement à lui, mais qui appartient à un règne de l'expression humaine qui est plus élevé qu'une seule personne ne pourrait l'imaginer à elle toute seule. Mais en même temps, c'est une langue usuelle. C'est aussi un type qui nous dit, voilà, tu es mon frangin, tu es un mec avec qui j'ai quelque chose à dire. Mec et frangin sont des mots très importants chez lui, toujours pour revenir à cette idée de fraternité. Quand on écoute du Ferré, on se sent pris dans une histoire humaine dont on est un maillon solide, dont on est quelqu'un qui compte. On se dit, ben voilà, tous les humains, à la suite de Ferré, ont quelque chose à faire ici-bas, sur cette terre de souffrance, d'ennui, de désespoir et de violence. Et ça, c'est vraiment le plus beau cadeau qu'il nous fait. Hein, c'est pas pour rien que les Féréens, tous ceux qui un jour ont entendu sa parole et réalisent qu'au cours de la vie jusqu'à leur dernier souffle, Ferré leur aura apporté quelque chose et dont on ne peut pas se passer. Hein, en général, c'est que soit qu'on l'écoute, soit qu'on est dans la tête, il suffit de rappeler une chanson ou l'autre et on sent la mer, comme il dit, il n'y a qu'une mer. Hein, on sent la mer qui vous prend, on sent cette énergie marémotrice de la vie. Parce que l'œuvre de Ferré, si elle dénonce, si elle parle de toutes ces choses de l'existence devant laquelle Ferré est ulcéré, c'est aussi pour nous emmener dans un monde où l'instant devient éternel. Hein, dans l'opéra du Pou, à plusieurs moments, il invoque ça, cette disparition du temps. Casse les horloges, il dit dans l'opéra du pauvre. Voilà, casse les disques et casse les horloges. Donc pour être quelqu'un qui s'affranchit justement de ce temps qui nous dit, comme le disait Jacques Brel, hein, qu'ils étaient très amis et ils s'admiraient l'un l'autre, tic-tac, qui dit « je vous attends ». Eh bien, à l'écoute de Ferré, on est dans un autre temps, on est dans le temps de l'humanité. On n'est pas le temps de la vie qui passe, on est dans le temps de la vie qui reste. On est dans le temps présent, on est dans le temps de l'émotion, on est dans le temps de la force, de la vigueur, d'une certaine idée de la vérité de la vie. C'est-à-dire, Ferré ne va pas vous dire ce que c'est la vérité, mais il va vous dire suffisamment de choses pour que vous ayez l'envie de vivre, voilà, de résister à la force de la mort. Et quand il part de la mort dans l'opéra du pauvre, c'est magnifique cette scène-là, vous le verrez après-demain, la mort arrive sur scène. Voilà, hein, et donc, elle, à un moment donné, elle dit, parce que je vis, la mort vit. Tout ce genre de choses, si on doit gloser ça dans un langage rationnel, hein, le langage des experts qui vous explique pourquoi les 3 A signifient quelque chose en économie, on n'arrivera à rien, évidemment. Mais si on laisse percoler ce truc, moi la mort, je vis. On entre dans un autre ordre de l'existence. Hein. On entre dans un ordre qui n'est pas binaire, qui n'est pas noir ou blanc, qui n'est pas vie et mort, qui n'est pas... voilà. Et Ferré, sa poésie, elle nous invite à ça. Elle nous invite à n'être pas dans la binarité du monde. Hein. Le langage, en général, ça dit quelque chose est, donc, n'est pas. Chez Ferré, c'est pas ça. C'est quelque chose est, et en même temps, est ce qu'elle n'est pas. Voilà. Et ça, je crois que c'est ça la grande prophétie que depuis des siècles et même des millénaires, les visionnaires, les allumés, les inspirés tentent de parvenir à dire, les mystiques, hein. Il n'y a pas autre chose chez les grands mystiques rénants, hein. C'est de dire, voilà, c'est de la vie, ce n'est pas ou, c'est et, voilà. Hein, donc c'est d'embrasser l'entièreté de la condition humaine et de l'embrasser avec fougue, avec joie, avec puissance. Et il y a tout ça chez Ferré.
Une femme, monsieur le président. Encore ? Elle dit être la mort. La mort ? Oh là 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 ! Qu'elle entre ! Qu'elle entre, mais qu'elle se maquille ! Je suis là. Ensemble, vous vous donnez la main, toutes les deux, avec la nuit. Oui, quand on peut. Des fois, moi, je travaille le jour. Question de computer. Comment? Quoi? Computer. Cela veut dire organisation organographique. Ou quelque chose d'approchant. Les mots, aujourd'hui, plus ils sont difficiles, et plus on paraît intelligent. Computer. C'est une façon de protéger le plan, n'est-ce pas? Il y a tellement à faire. On serait vite débordé s'il n'y avait cette suprême intolérance du chiffre avant la lettre. Vous savez, président... Monsieur le président! Vous savez, président, ne vous mettez pas trop mal avec moi dans le computer, des fois. J'ajoute la fantaisie. Je peux donc changer quelques chiffres. Et comprenez-vous? Pas très bien, mais poursuivez. Je disais donc, au Brésil, hier, dans une ville minable, à l'intérieur du pays, j'ai dû m'interposer entre les gens et la police parce que, vraiment, elle exagérait. Comment ? La police exagère ? Là-bas aussi. Oui. Et alors, tout en m'interposant, j'ai interpellé le computer. You see ? What ? Et parti. Le computer prétendait et informait que la police devait intervenir et mettre les gens au pas, n'est-ce pas? Alors c'est là l'interpolation. Comme dans un texte ancien que l'on revoit et que l'on corrige. On ne fait que ça d'ailleurs dans votre monde contemporain. On interpole, on interpole, on interpole. Et vous allez au match de football pendant que le pouvoir fait le ménage dans votre maison et dans votre tête. Alors, comme ça, vous faites le ménage ? Non, président. Moi, j'attends. Et des fois, j'interpole, c'est tout. Alors, j'ai attendu ma camarade. Quelle camarade ? Mais la nuit, voyons. Et alors ? Eh bien, il n'y a plus de police dans cette région. Et ça, je le dois à la nuit. La nuit, les policiers ont peur. Ils ressemblent à tout le monde. Des fois, on les prend à revers et... pof ! Notez ça, greffier. Vous êtes donc complice ? Non. Le soleil se lève et puis se couche. Quand il se couche, il est complice, non ? Quand il se couche, le soleil, je ne sais pas très bien, car je ne suis pas là, mais quand il se lève, alors, quand il se lève, je le contrôle. Je le chante même, et souvent je l'embrume, et avec ses yeux et sa gueule toute brûlante, là-haut, derrière, il essaie de s'immiscer, et la nuit n'y peut rien, moi, je le punis, et ça fait les jours tristes et maussades. Pas vrai, maître ? Monsieur le Président, monsieur l'avocat général fait de la littérature mauvaise, certes, mais il se dévoile par là même. Il ne peut rien contre la nuit. Alors, avec ce que cela comporte d'inédit et d'enfantin, il arrange sa propre nostalgie en un compte à régler. Il prétend obscurcir le jour en embrumant, dit-il, sa raison de vivre, qui est le soleil. Vraiment, les gens du jour ne m'intéressent pas. Ils tuent par déliquescence interposée. Nous autres, de la nuit et de la mort, nous sommes dans le moins. Vous savez ce qu'il y a après la virgule. Quoi donc ? Comment, maître ? Quoi ? Monsieur le Président, après la virgule ? Il y a la fantaisie, comme une chose imprécise et inhabituelle. C'est bien dans l'inhabituel que nous nous informons sur l'univers imprécis, sur les fleurs de l'incroyable, enfin, de votre incroyable à vous, du Moyen-Âge et de ce que vous pensez être la lumière. L'histoire vous met à l'envers de vous-même. Vous croyez savoir, mais vous ne pouvez qu'à peine imaginer les gens de votre vie et de ma vie à moi, la mort. Car je vis.
Silence, ou je fais évacuer la salle.
Voulez-vous que je vous donne un coup de main, président ? Et moi ?
Ah ! Vous tombez bien ! La nuit tombe, n'est-il pas vrai ?
Alors, nuit, quel rapport avez-vous avec le témoin ? Une connivence, parfois.
Qu'est-ce à dire ?
Le sens de la réverbération et du sourire.
Je ne comprends pas, madame.
Appelez-moi mademoiselle ou miss. Puisque je meurs chaque jour et que je renais avec moi. Je suis le silence et le silence encore. Parfois, la rumeur, qui sait, certaines nuits, lorsque j'embrase les amants échevelés et sûrs de leur aventure parallèle, voyez-vous, je confonds embrasse et embrase. Et pour moi, c'est la même chose.
Les parallèles.
Des fois, elles se rejoignent.
Toujours, elles se rejoignent. Et l'amour...
Maître, nous ne sommes pas ici pour plaisanter. Vous êtes érotique dans vos interventions.
Poursuivons.
La mort. Poursuivons, madame.
Vous êtes à cheval entre l'incompétence et le travesti.
D'ailleurs... Le travesti est une remarque de l'incompétence.
Ça suffit, madame. Restez à notre disposition.
Mais c'est vous qui êtes à ma disposition.
Je règle la circulation dans ce monde de fouillis et de peur. Quand je lève le bras, vous filez vite, 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 très vite. Surtout la nuit.
N'est-il pas vrai, camarade ?
Thank you. un signal d'alarme entre un sax baryton et des drums de hasard. J'écris sur un tableau des chiffres et des larmes. Quand vous voulez vous déchiffrer, il est trop tard. D'un crépuscule aux souris anonymes, sous le bec du couchant de mes hiboux de choc, je suis la fleur fanée que la tombe ranime, comme on ranime des idées au five o'clock. Je suis le son perdu au cœur des poitrinaires, quand la seconde s'analyse au fond d'un lit, je t'apporte le dépliant de mes mystères pour acheter le temps qui te reste. Je vis ma vie de morte au seuil de vos consciences, et les pensées que je vous dois sont formulées à force de terreur envahie par la science. La médecine est une de mes employées. Force à courir d'un méridien à l'autre, de mes fuseaux sans laine et de ma fausse semblée. Il te reste la dernière heure qui se vautre au bout d'un agenda qui restera fermé. Sur mes Champs-Élysées, il n'y a pas d'étoiles. Sous mes souliers usés, il n'y a plus de jardin. Pour la dernière fois, je te mets à la voile, et le voyage que tu fais ne coûte rien. Mon œil est un trou noir, mais je sens les outrages. Mon cœur n'a plus de loi, il ne sait plus chanter. Quand les amants chantent pour moi, c'est de ma rage qu'ils bavent tout le sucre que je ne peux donner. Les jours des pauvres bêtes, les chevaux orgueilleux, les oiseaux paradis. J'ai plus de souvenirs que Nana la Villette. J'ai plus de rendez-vous que vous n'en avez pris. Mais lorsqu'un assassin vient dans mon monopole faire un extra rougi par le chagrin des gens, j'enrage à la pensée de n'être qu'une idole. Un peu noire, c'est vrai. Je chante avec la nuit des anciennes costumes, et j'interloque le devoir et la raison. Je me mets en veilleuse, et quand on me rallume, je suis le dernier flic de la circulation.
C'est ce qui manque dans ce monde. C'est ce qui manque. L'intelligence. La connerie. c'est trop vivant, trop présent.
Merci Chris, merci Sylvie pour cette très belle émission. Radio Libertaire, c'est la voix de la Fédération Anarchiste que vous pouvez soutenir avec une carte d'auditeur et carte d'auditrice que vous trouverez à la librairie du Monde Libertaire, 145 rue Amelot, 75 011 Paris. Vous pouvez également soutenir Radio Libertaire en participant à la souscription des Amis de Radio Libertaire. Vous trouvez le formulaire sur le site radio-libertaire.net et vous pouvez également vous procurer les très jolis autocollants de Radio Libertaire. On ne se retrouve pas la semaine prochaine, il n'y aura pas d'émission la semaine prochaine, on se retrouve le 1er mai. Salut à toutes, salut à tous, prenez soin de vous, prenez soin d'elles. Ciao.